BW. Magazine Santé.
Bonjour à toutes et à tous. L'éradication du paludisme à l'échelle mondiale serait l'un des plus grands succès dans le domaine de la santé publique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si cet idéal se transformait en réalité, ce serait en premier lieu les plus vulnérables d'entre nous qui en bénéficieraient, autrement dit les enfants, en particulier ceux de moins de 5 ans. Ils constituent la majorité des victimes du paludisme. Et parmi les symptômes développé par les jeunes enfants, l'un des plus graves est l'anémie. Illustration cette semaine avec un reportage dans un centre hospitalier au Togo. Et puis en seconde partie, nous nous pencherons sur le tabou de l'infertilité au Nigeria. C'est Constance Fischer au micro. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé. Plus de 90% des 400 000 décès dus au paludisme chaque année surviennent en Afrique subsaharienne, selon l'OMS. C'est l'une des premières causes de mortalité infantile en Afrique. Maltraitée, cette maladie parasitaire peut entraîner d'autres complications. L'une de ses formes graves est le paludisme anémique. Au Togo, précisément au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, le centre de référence de Lomé, c'est la forme qui tue le plus les enfants de moins de 5 ans. Et pour cause, les banques de sang sont en pénurie et il n'y a tout simplement pas assez de sang disponible pour soigner les cas les plus critiques. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Elodie Amen.
Il n'a pas mangé beaucoup. J'ai fait une semaine ici, il n'a pas mangé, il n'a pas parlé.
Tout comme la fille d'Ayawa, ils sont nombreux, ses enfants, à être admis ici à la pédiatrie du centre hospitalier Sylvanus Olympio. En cette période de mousson, le paludisme est la maladie qui sévit le plus chez les enfants. Et la forme la plus récurrente est celle accompagnée d'anémie. Professeur Atakuma Yao, chef service pédiatrie.
C'est la forme de paludisme grave qui est associée à une anémie chez l'enfant. L'anémie, c'est tout simplement le manque de sang, c'est-à-dire une diminution brutale, soit de la quantité d'hémoglobine ou bien du nombre de globules rouges chez un enfant. Il faut savoir que le paludisme, c'est une maladie parasitaire, c'est-à-dire due à un parasite qui est transmis dans notre corps par le moustique femelle. Et ce parasite va pénétrer dans les globules rouges. Dans un premier temps, le parasite va transiter par notre foie, va s'y multiplier, puis après, va être libéré dans le sang pour aller parasiter les globules rouges. Parce que les globules rouges sont détruits, leur nombre va diminuer et c'est ça qui va être à l'origine de l'anémie chez l'enfant.
Et les symptômes de cette forme anémique très létale sont nombreux. Forte fièvre, maux de tête, fatigue intense, courbatures, manque d'appétit, pâleur et autres. Des symptômes que le garçon Dameyo présente également.
Il s'est plaint de maux de tête. Je lui ai donné du paracétamol et ça allait mieux. Mais après, il a continué à se sentir toujours mal et je lui ai fait prendre de l'efferalgan. Après, il a commencé par devenir pâle et très mal. Là, je l'ai amené dans une clinique de notre quartier. On l'a perfusé. Mais comme son état ne s'améliore toujours pas, on nous a transférés ici.
Dans la salle d'hospitalisation, presque tous les enfants manifestent les mêmes symptômes. Certains en meurent au bout de quelques jours parce que tardivement pris en charge, ce que déplorent les agents de santé. Professeur Atakuma.
Que les parents fassent un effort pour nous amener à temps les enfants. Parce que lorsque l'enfant arrive très tardivement et que nous ne disposons pas de sang sur place, il est difficile de sauver des enfants comme ça qui ont besoin d'une transfusion en urgence. Parce que des fois, nous sommes obligés de leur demander d'aller jusqu'à la banque de sang, à la Croix-Rouge là-bas, et pour aller chercher le sang. Bon, ça nous gêne. C'est parce que nous-mêmes n'avons pas de dépôt sur place, tout simplement parce que, étant donné que c'est le Centre national de transfusion sanguine qui gère le sang, bon, ils ont préféré avoir le stock à leur niveau pour que nous puissions venir les chercher en cas de besoin. parce que les besoins en transfusion sanguine sont énormes. Ce n'est pas seulement les enfants hospitalisés au CHU Sylvanus Olympio qui sont dans le besoin.
Nous sommes au Centre national de transfusion sanguine. Ils sont nombreux à venir acheter le liquide précieux, mais le seul bémol, il n'y en a pas assez, ou carrément pas. Atou est venu d'une autre ville pour en acheter.
On en a pu trouver, mais pas en quantité suffisante. Au lieu de 4 poches, on n'a pu avoir qu'une poche. Et aujourd'hui, on est revenu depuis le matin jusqu'à 7h. S'il est 16h dépassé, on n'a pas encore eu. Or, on a quitté depuis Aného jusqu'à Lomé.
Cette pénurie a une explication, selon Kossi Boukbo Adoua Julienne, chef d'unité collecte fixe au CNTS.
Nous sommes à un moment où on a des cas d'anémie causés par le paludisme. Et c'est ce moment-là aussi que les opérations chirurgicales sont programmées. C'est pour cela que la demande est plus élevée pendant les vacances aussi que pendant l'année scolaire. Et dans tout le Togo, on a besoin de 70 000 poches par an. Mais actuellement, nous sommes dans les 35 000 poches.
Donner son sang pour sauver des vies, l'appel est encore lancé. Aux bonnes volontés. Elodie Amenalomé pour la Deutsche Welle.
Vous écoutez la DW.
Vous écoutez la Deutsche Welle, vous écoutez le magazine Santé, direction le Nigeria à présent. Là-bas, comme ailleurs, il n'est pas simple d'être en couple sans avoir d'enfants. Face aux critiques et parfois même aux moqueries, certains optent pour la fécondation artificielle. Mais cette opération, en plus d'être risquée, est aussi onéreuse. Alors pour échapper à la pression familiale et sociale, les époux qui n'ont pas les moyens envisagent parfois de prendre une seconde épouse. C'est un reportage de Catherine Gensler. Zulayatou Babangida berce son petit Mouhamadou Awal. Dis-moi, le bébé est fatigué, il a du mal à garder les yeux ouverts. Sa mère le regarde tendrement, son père, Ahmed Babangida, est lui aussi sous le charme. Voilà 15 ans que Zulayatou et Ahmed sont mariés, 15 ans qu'ils ont attendu cet enfant.
J'ai fait confiance à Dieu et j'ai prié chaque jour pour tomber enceinte. Ma famille aussi a fait confiance à Dieu. Mais à part ça, je ne sais pas ce que mes proches ont dit sur moi. Lorsqu'ensuite je suis tombée enceinte, cela m'a rendue très heureuse et j'ai remercié Dieu.
Zulayatou Babangida parle tout doucement et regarde régulièrement ses pieds. Au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, plus de 200 millions d'habitants, et le pays où, statistiquement parlant, chaque femme fait naître 4,8 enfants, ne pas en avoir est un tabou. Ceci explique pourquoi la jeune femme, âgée aujourd'hui de 31 ans, ne tient pas trop à s'étendre sur les années durant lesquelles elle et son mari ont espéré, en vain, concevoir un enfant. Idem pour le mariage et les pressions qu'ont pu exercer son entourage. Car au Nigeria, lorsqu'un couple n'a pas d'enfants, ce sont avant tout les femmes qui peuvent être prises pour cible. Elles sont considérées comme des mauvaises personnes, explique Hadiza El Roufaï. Première femme de l'État de Kaduna, Hadiza El Roufaï a publié en 2017 un roman dont le titre pourrait se traduire par « Des scorpions en abondance ». Actuellement, au Nigeria, c'est l'un des trois seuls ouvrages qui aborde cette épineuse question de l'infertilité.
En général, le roman permet très bien de parler de sujets qui préoccupent la société. Et il ne s'agit pas pour l'auteur de proposer une solution. Il s'agit bien plus de déclencher une discussion dans l'espoir que les développements soient ensuite positifs.
Lorsque l'on se promène dans les quartiers aisés d'Abuja, la capitale, on se rend vite compte que les difficultés que rencontrent certains couples pour procréer est un sujet certes tabou, mais qui préoccupe. Ces dernières années, plusieurs cliniques spécialisées dans le traitement de la fertilité ont ainsi fait leur apparition. La plus ancienne du genre se trouve dans le quartier de Yabi. C'est ici, dans l'hôpital Nissa, qu'en 1998, le premier bébé éprouvette, Hanatou, a vu le jour. Entre-temps, l'hôpital propose à des médecins issus d'autres hôpitaux de se former aux techniques d'insémination artificielle. Selon Monday Nenfa Solomon, directeur médical de l'hôpital de Nissa, les demandes pour de telles formations sont en forte hausse.
A few teaching hospitals are beginning to Jusqu'ici, peu de centres hospitaliers universitaires proposent des formations sur les méthodes de reproduction assistée. Mais certains envoient leurs collaborateurs se faire former dans les centres spécialisés. Nous aussi, actuellement, nous formons deux médecins qui viennent d'ailleurs.
Difficile cependant d'établir combien de personnes attendent vainement un enfant au Nigeria. Selon les estimations d'un institut américain, entre 25 et 31% des couples qui ont des rapports sexuels non protégés pendant 12 mois ne procréent pas. L'hôpital de Nissa reçoit chaque mois plus de 150 patients. Après un premier examen, il est possible d'évaluer la nature et donc le coût du traitement, explique le médecin.
Pour une fécondation in vitro traditionnelle, cela dépend de l'origine des ovules. Si ce sont les ovules de la patiente, le traitement coûte entre 800 000 et 1 million de naira. Si ce sont ceux d'une tierce personne, cela sera plus cher, bien sûr.
Mais que faire alors lorsqu'un couple n'a pas les moyens de recourir à la fécondation artificielle? Une solution consiste à adopter, mais il est difficile de dire exactement combien de couples recourent à cette option, d'autant que d'un état à l'autre, les conditions préalables à l'adoption diffèrent. Une autre solution consiste pour l'homme à épouser une seconde femme. Une pratique répandue dans les régions à dominance musulmane, explique Hadiza El-Roufaï.
In the north here, it's not so much an issue.
Ici, dans le Nord, ce n'est pas un sujet qui fait les gros titres. Les femmes sont très soutenues. Lorsqu'une femme n'arrive pas à avoir un enfant, le fait que son mari épouse une seconde femme, qui, elle, enfante, est accepté socialement.
Quand on demande à Ahmed Babangida si lui a imaginé prendre une seconde femme, il secoue la tête avec véhémence.
Je me suis occupé de mes affaires et je n'ai pas prêté attention au « qu'en dira-t-on ». Bien sûr que la pression était importante. En revanche, je n'ai jamais pensé à épouser une seconde femme, bien que ma religion me l'autorise.
N'hésitez pas à réécouter et à partager ce magazine en vous rendant dans la rubrique médiathèque de notre site internet. Bonne semaine à toutes et à tous, restez en pleine forme et à l'écoute de la DW.